Bonjour à vous, cher Emmanuel, et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi qui vous emmène chaque semaine à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. La philosophie est-elle une vocation? Comment viennent les idées? Comment se fabrique un concept? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par lui-même du philosophe Justin Smith. Bonjour à vous.
Bonjour.
Je vous appelle Justin Smith, mais votre vrai nom, c'est Justin Eric Haldor Smith.
C'est ça, oui.
Sinon, on vous confond avec un joueur de football américain.
C'est ça, exactement. Ça m'est arrivé.
J'imagine. Je vous ai présenté comme philosophe. Comment vous présentez-vous?
Je suis philosophe, je suis professeur de philosophie, ou plus précisément, je suis professeur d'histoire et philosophie des sciences.
À l'université Paris 7 Denis Diderot.
C'est ça.
Où vous dirigez le département d'histoire et
oui,
philosophie des sciences.
Oui, je suis directeur depuis quelques mois.
Être philosophe, est-ce que c'est un métier?
Entre autres, oui.
Entre autres, c'est quoi les autres?
C'est un métier, hein, c'est un boulot hein, que je fais tous les jours. Et ça gagne le pain aussi.
C'est pas une vocation.
Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis entre autres, hein, c'est une vocation aussi.
On va comprendre ça, on a 50 minutes ensemble pour essayer de comprendre votre pratique de la philosophie. On va remonter jusqu'à votre rencontre avec la philosophie, questionner vos influences philosophique ou extra-philosophique, on va pénétrer dans votre atelier de fabricant de concepts en réfléchissant aussi au rôle politique du philosophe. Mais avant cela, s'il fallait identifier peut-être une chose qui vous est chère, qui compte pour vous dans votre travail de philosophe, alors il y en a beaucoup, on va le voir, vous êtes vraiment multifonctionnel, ce serait peut-être la science. La science, vous vous intéressez beaucoup à la science, n'est-ce pas?
Oui, mais il faut préciser. Je suis spécialiste de la philosophie naturelle, mais surtout de la philosophie naturelle du XVIIe, XVIIIe siècle. Et à cette époque-là, la science n'existait pas, ou au moins pas dans le sens où on comprend le terme aujourd'hui. La science, c'était n'importe quelle doctrine. Il y avait la science théologique. Par exemple, c'était pas forcément la science empirique, mais la philosophie, à cette époque-là, comprenait, incluait aussi la science naturelle. La science comme dans le sens de la recherche sur le monde empirique. Et donc, quand moi, j'essaye d'expliquer ce que je fais, c'est pas que je suis philosophe des sciences, mais que je m'intéresse à la philosophie naturelle. C'est un terme archaïque qui existait depuis jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, mais qui est disparu après.
Et plus précisément aujourd'hui, ce qui retient votre attention, ce sur quoi vous travaillez, ce qui vous préoccupe et qui nourrit votre travail en ce moment, c'est ceci. Est-ce que vous reconnaissez ce que nous sommes
oui,
en train d'écouter? Qu'est-ce que c'est?
C'est une baleine.
Oui, c'est un chant des baleines, car vous travaillez en ce moment, ou alors vous avez travaillé, non seulement sur les baleines, mais alors sur la façon que nous pouvons avoir de connaître ou de comprendre le comportement des baleines à partir de leur cérumen.
Oui, en fait, je suis pas spécialiste, c'est assez, je suis loin de ça, mais ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on découvre de nouvelles méthodes pour étudier ou, si vous voulez, pour lire la nature. Comment on découvre que la nature est riche en documents, si vous voulez. Et récemment, en fait, c'était dans un article qui date de novembre de 2018, j'ai été frappé par une actualité. Des chercheurs américains ont découvert qu'on peut analyser la chimie du cérumen, de la cire, dans les oreilles des baleines pour, en quelque sorte, pour lire toute la vie de la baleine, pour comprendre à quel moment dans sa vie elle a subi une période de stress, par exemple, et ensuite...
Mais tout ça à l'aide du cérumen?
Oui.
Comme une archive qui
oui,
garde...
Oui, c'est comme une archive.
Oui, parce qu'en fait, ses oreilles ne sont jamais nettoyées, donc c'est le même depuis le début.
Oui, c'est le même.
Et
c'est énorme pour les baleines, c'est énorme. Et donc, ça m'a fait penser, depuis la Renaissance, il y a la métaphore du livre de la nature. Et pendant quelques siècles, on se moque de cette métaphore. On dit que c'est pas comme si on lit réellement les vestiges des processus naturels du passé, mais dans certains cas, comme par exemple pour la dendrochronologie, c'est évident que c'est ça qu'on fait. On applique toute une méthode herméneutique pour savoir ce qui s'est passé dans le passé, tout comme on le ferait en lisant un manuscrit du Moyen-Âge, par exemple. Et cet exemple des baleines, ce que ça montre, c'est que, en principe, on peut toujours continuer à découvrir des textes, si vous voulez, entre guillemets, dont on n'était pas conscient avant.
Donc ce qui vous intéresse, c'est comment, ici en particulier, le cérumen des baleines vous donne accès à la nature. Comment comprendre quelque chose à travers un de ces détails, en fait.
C'est ça.
Vous parlez de documents.
Je travaille actuellement sur un projet, j'enseigne un cours qui va mener éventuellement, j'espère, à un livre sur ce qu'un collègue à moi, un collègue qui travaille en Angleterre, il s'appelle Adrian Curry, ce qu'il appelle les sciences historique. Par science historique, il ne veut pas dire histoire dans le sens de l'histoire humaine, mais par exemple la phylogénétique, la paléontologie, l'histoire du climat, peut-être même la cosmogonie, toutes les sciences qui portent sur le passé. Traditionnellement, on a perçu dans la philosophie, les philosophes des sciences ont considéré ces sciences comme moins digne, comme plus bas dans une hiérarchie dont la reine a été, depuis le XVIIe siècle, la physique mécanique. Pourquoi est-ce qu'on a considéré la physique mécanique comme la reine? Parce que les lois qu'on découvre sont valides, une fois pour tout, partout dans l'univers. Et donc, si on décrit, par exemple, la façon dont une planète orbite autour du Soleil, ou on décrit les mouvements des vagues dans l'océan, etc., il ne faut pas préciser où et quand. Alors que quand on essaye, par exemple, d'interpréter un fossile, de le classifier, il faut toujours se poser des questions de chronologie. Et donc, ce sont des événements qui sont arrivés une fois seulement dans le passé, et c'est de moins d'intérêt que ce qui est général, ce qui est universel. Et pour cette raison, on a eu tendance, dans l'histoire des sciences, de se moquer un peu de ces sciences historiques. Mais ce que moi je veux montrer, c'est que ça crée un lien avec les sciences humaines aussi.
C'est ça.
Et un jour, peut-être, on pourrait classifier toutes les sciences de façon différente. On pourrait avoir, disons, une faculté qui s'intéresse à la fois à la paléontologie et à la paléographie d'un côté, et de l'autre côté, on pourrait avoir la faculté des disciplines qui s'intéressent, disons, aux sciences générales, aux sciences, si vous voulez, pour parler comme un aristotélicien, aux sciences éternelles.
Alors pour ça, il faudrait qu'il y ait davantage de transdisciplinarité qu'il y en a aujourd'hui en France. On va faire votre propre chronologie philosophique aujourd'hui, Justin Smith. Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec la philosophie ?
Oh, vous savez, j'ai grandi en Californie, et j'étais entouré par des amateurs, disons, de la pensée ésotérique.
Vous dites ça comme c'était naturel qu'en Californie.
Oui,
il y avait
c'était naturel. Quand j'entrais dans les librairies, je cherchais le rayon philosophie et je ne trouvais que des livres sur comment projeter le corps astral, sur comment se souvenir de ses vies passées, comment saisir l'énergie des cristaux, ce genre de choses. Okay. Donc, je ne sais pas d'où ça venait, mais j'avais comme un instinct qui me disait, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça la philosophie, même si je ne savais pas exactement ce que c'était. Un jour, par hasard, parmi ces livres sur les ovnis et tout ça, j'ai trouvé un livre qui s'appelle le Tractatus, hein, le traité logico-philosophique de Ludwig Wittgenstein. Et j'ai senti que c'était différent hein, des livres qui l'entouraient. mais je n'étais même pas sûr. Hein, j'étais si naïf, hein, si ignorant.
Vous aviez quel âge?
Je ne sais pas, 12, 13 ans.
Ah, oui.
Mais je voulais comprendre. Hein, et je l'ai acheté, ou ma mère m'a acheté, me l'a acheté. Et je l'ai lu. En fait, un peu comme on lirait un livre d'astrologie, parce que je ne comprenais pas, et ça semblait tellement énigmatique, et ça m'a pris des années pour deviner le mystère. En fait, c'est un drôle d'exemple parce que je suis pas tellement wittgensteinien hein, depuis des décennies, hein, ça ne m'intéresse plus, mais néanmoins, c'était mon premier livre.
Et vous n'avez pas étudié la philosophie au lycée, puisqu'aux États-Unis, on étudie la philosophie au lycée, ensuite à l'université ?
À l'université, oui. Après avoir fait 2 ans d'études en biologie, oui. J'ai changé de discipline. J'ai fait une double licence en philosophie et en linguistique.
Donc en Californie, puis à Columbia ?
Oui, ensuite j'ai fait mon doctorat à Columbia.
Et là, vous avez décidé de faire de la philosophie votre métier ? C'était une décision ou ça
je sais pas. Même là, hein, en fait, après 5-6 ans au doctorat, j'ai constaté que je devais trouver un poste quelque part, hein, parce que du côté financier, c'était un peu dur de vivre à New York. Et je pense que, en fait, c'est seulement à ce moment-là que je me suis dit que oui, tu vas trouver un poste, tu vas gagner un salaire en tant que philosophe. Hein. Mais jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la dernière année du doctorat, je n'avais aucun plan concret. Hein. C'était pas pur intérêt.
Alors, quand on pense à la façon d'enseigner la philosophie aux États-Unis et à la philosophie dite américaine, on pense plutôt à la philosophie analytique. Avant de nous expliquer pourquoi vous avez quitté les États-Unis, je vous propose d'écouter cette voix que vous allez sans doute reconnaître.
I think it was unfortunate that pragmatism became thought of as a theory or definition of truth.
Je pense qu'il est regrettable que le pragmatisme soit devenu dans l'esprit des gens une théorie ou une définition de la vérité. Je pense que ça aurait été mieux si les pragmatistes avaient dit « on peut vous parler de justification, mais on ne peut pas vous parler de vérité, il n'y a rien à en dire ». Et comme on sait comment justifier les croyances, on sait que l'adjectif « vrai » est le mot qu'on applique aux croyances qu'on a justifiées. On sait qu'une croyance peut être vraie sans avoir été justifiée, c'est à peu près tout ce que nous savons de la vérité.
Quand le philosophe Richard Rorty parle du pragmatisme et de la recherche de la vérité, il est porte-parole ici d'une certaine conception de la philosophie qui peut paraître très technique quand on n'est pas familier avec ces discours-là de Justin Smith.
Ouais.
Expliquez-nous où est-ce que vous vous situez par rapport à ça.
Mais Rorty, je dirais pas qu'il est l'un de mes héros en philosophie, mais j'apprécie beaucoup le fait qu'il a fait un vrai effort de construire des ponts entre les traditions, et ça à partir des années 70, à un moment où c'était très difficile dans les départements de philosophie aux États-Unis de s'intéresser à des questions autre que la logique et l'épistémologie formelle, quelques autres questions, mais très, très pointues, très étroites.
Et c'est ça qu'on étudiait aux États-Unis à ce moment-là.
Même quand moi j'étais au doctorat dans les années 90, c'était toujours assez restreint. Hein. Là, Rorty se présente comme néo-pragmatiste, ce qui est une tendance aussi en France depuis des années, grâce à Claudine Tiercelin et d'autres
qu'on
qui s'intéressent à Charles Peirce, William James, etc. Et moi, je suis pas particulièrement impressionné par les pragmatistes non plus. Je trouve que l'interprétation que Rorty donne, selon laquelle John Dewey était une sorte de homologue américain de Heidegger, hein, c'est un peu forcé. Hein. Mais ceci dit, Rorty a été vraiment très important pour le fait d'avoir forcé une nouvelle ouverture envers d'autres traditions, d'autres cultures philosophiques, et aussi pour la redécouverte des traditions américaines qui ont été submergées par la philosophie analytique qui s'est installée en conséquence des événements en Europe au milieu du XXe siècle. On avait tout tous les exiliés de l'Europe centrale qui se sont installés aux États-Unis pour nous transmettre leur tradition philosophique à eux, qui était historiquement pas tout à fait inintéressante, mais quand même, il y a plus que ça. Hein. Et donc, redécouvrir non pas seulement les pragmatistes, mais aussi les transcendentalistes américains.
Donc ça, c'est au 19e siècle, hein, c'est Emerson,
Début 19e, oui, c'est ouais. ça. Et même avant, la pensée dans les colonies américaines, on peut compter par exemple George Berkeley hein, comme philosophe américain.
Ils sont plus étudiés aujourd'hui dans les facs américaines
Presque pas du tout, hein. Okay. Mais ça devient de plus en plus possible. Hein. On a maintenant, dans les facs américaines, on a une ouverture comme jamais avant.
Donc, au moment où vous décidez de quitter les États-Unis, c'est pour aller vers davantage d'ouverture, comme vous le dites, ou c'est parce que vous trouvez plus facilement un poste en France qu'aux États-Unis?
Oh, mais vous savez, entre les États-Unis et la France, j'étais au Canada pendant quelques ans, à Montréal précisément, qui est entre les deux mondes, et c'est là où j'ai commencé à apprendre le français, à participer plus souvent dans des colloques à Paris, hein, parce que je croisais des philosophes français là-bas. Mais donc, c'est pas comme si je suis arrivé directement des États-Unis. Mais les raisons pourquoi j'ai décidé de prendre un poste en France, c'est un peu compliqué. L'histoire courte, c'est que j'ai été recruté. Je me disais, pourquoi pas?
Et aujourd'hui, vous enseignez la philosophie dite classique? Vous parlez de Descartes, de Leibniz?
Oui. Bon, en fait, oui, j'enseigne la philosophie ancienne. Hein, je fais de plus en plus d'Aristote récemment, mais aussi, comme j'ai dit avant, beaucoup de philosophie de l'âge classique aussi. Hein. C'est un peu, je me disais au début que ce serait un peu comme, comment dire, porter le charbon à Manchester, hein, que d'enseigner Descartes à Paris, mais en fait, non, je peux apporter des choses que mes étudiants ne savent pas.
Alors, avant justement de commenter plus précisément votre rapport à l'enseignement et puis à l'écriture, à vos travaux, parce que vous collaborez aussi à beaucoup de revues et de journaux, je voudrais qu'on écoute un peu ce qu'on trouve dans vos influences qui ne sont pas forcément philosophiques, mais dont peut-être vous vous nourrissez pour votre travail. Si on entre près de votre oreille, on entend ceci. Allez-vous deviner le nom de mon invité aujourd'hui? Il s'appelle Justin Smith, c'est un philosophe américain qui est aujourd'hui sur les chemins de la philosophie sur France Culture dans ce vendredi Profession Philosophe. Et c'est sur sa bonne suggestion que nous écoutons en ce moment de Rolling Stone, Sympathy for the Devil. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette chanson, Justin Smith?
Ah, mais c'est un peu comme Wittgenstein. Hein. Je dirais pas que les Rolling Stones, que je suis grand admirateur des Rolling Stones, mais cette chanson-là m'a toujours fasciné parce que je pense que c'est l'un des derniers exemples dans la culture populaire où on donne des références littéraires, même mythologiques, tellement profondes. Hein, c'est vraiment dans la tradition de Milton, hein, où si on croit ce que dit Mick Jagger, hein, il a été en train de lire Master et Margarita de Bulgakov juste avant d'écrire cette chanson. C'est tellement riche de ce côté mythologique, mais en même temps, c'est tout à fait, ça appartient tout à fait à son époque. Hein. Et après 68, 69.
Parce qu'elle date de 68, cette chanson. Ouais.
Cette qualité littéraire disparaît de la musique populaire. Hein. Je peux trouver à peine des exemples des années 70, des années 80 qui atteignent ce niveau. Hein.
Est-ce que la musique joue un rôle important dans votre vie, dans votre travail, Justin Smith ?
Dans ma vie, mais pas dans mon travail.
Ouais.
Hein. Et là, en fait, ça m'a un peu angoissé, cette idée de commenter un morceau de musique, hein, parce que tout ce que je peux dire, c'est que ça me plaît. Hein,
oui,
ça.
Bah, c'est la meilleure chose à dire sur une chanson.
Pour des raisons profondes, hein, mais en fait... J'ai beaucoup réfléchi récemment là-dessus. Hein. Mes goûts en musique sont toujours pour tout ce qui est populaire, pour tout ce qui est bas, hein, dans un certain sens. Et je veux pas dire que c'est un goût primitif, mais en musique, je ne sais presque rien de la tradition classique. Hein. Je suis presque comme un analphabète dans ce domaine-là, et ça montre qu'il y a une rupture, hein, parce que normalement je m'intéresse à tout, hein. Je veux tout apprendre sauf pour la musique. Je suis tout à fait content d'écouter la musique qui me plaît sans ressentir le besoin de gagner plus de culture,
d'intellectualiser.
c'est ça.
Et pourtant c'est pas le cas du cinéma, parce que l'extrait de film qu'on trouve près de votre cas, alors là on n'est pas du côté des Stones ou de la culture populaire, il s'agit d'un extrait de Robert Bresson, Au hasard Balthazar.
Donne-le-nous. Il nous faut.
Les enfants, c'est impossible.
Balthazar, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
L'histoire de l'âne Balthazar avec Marie, la petite fille originaire du Pays Basque, Jacques, son compagnon de vacances parisien. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce film, Justin Smith ? Là, on est bien loin des Stones. Hein.
Ah oui, en fait, c'est un peu dans le même sens, hein, parce que tous les deux portent sur des questions du bon et du mal. Hein. Tout d'abord, j'aime regarder Anne Wiazemski. Hein,
qui est l'actrice qui joue
oui,
dans le film.
L'actrice, hein. Comme pour la musique, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ça, c'est un plaisir pur. Mais aussi, ce que j'aime, c'est que Bresson a découvert que parfois, le meilleur acteur peut être entièrement passif, hein, peut être même pas un agent du tout, dans le sens étymologique du terme.
Un agent actif.
Qui est la même chose que acteur. Acteur, agent, c'est celui qui agit. Hein, alors que ici, je parle pas de Anne Wiazemski, je parle de l'âne Balthazar qui joue entre guillemets dans le film et qui est franchement l'acteur le plus génial que j'ai jamais vu, sauf qu'il ne sait
pourquoi
pas
ça
qu'il agit, mais c'est tout à fait approprié, ça convient très bien pour ce rôle. Pourquoi ? Parce que c'est la passion du Christ. Hein, et la passion, c'est l'opposé de l'action. Hein. Et donc, qui peut mieux jouer Jésus-Christ que un animal, hein, qui est entièrement passif. Hein. Donc voilà.
Mais vous parlez de plaisir pur à propos de la musique et du cinéma, et donc de plaisir, si je vous comprends bien, plaisir pur, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas forcément intellectuel, mais votre rapport à la philosophie, est-ce que c'est purement intellectuel ou est-ce qu'il y a aussi du plaisir pur ?
Il y a des moments de plaisir pur, bien sûr, mais...
Quel moment ?
Des moments de découverte, des moments où j'ai l'impression de comprendre quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai pas compris avant. Et c'est rare, et ça arrive à des moments qu'on ne choisit pas, dans la douche, dans au lit, on ne sait jamais. Hein. Mais souvent, la plupart du temps, c'est du boulot. Hein. Je pense que c'est tout à fait normal. Hein.
Comment peut-on philosopher ? Que peut-on faire ? Est-ce que j'ai appris une façon de philosopher qui ne serait pas la simple lecture de grands livres et la simple imitation de ce qu'ont fait les autres ? Est-ce que la philosophie est possible comme pensée, comme œuvre ?
C'est Emmanuel Lévinas qui vous pose une question, Justin Smith. Philosopher, pas simplement pour imiter les autres, mais peut-être essayer d'en faire une œuvre. Est-ce que c'est l'attitude que vous avez à l'égard de votre travail ? Proposer quelque chose de nouveau.
A priori, je n'ai rien contre ce que Lévinas dit. Hein. Ça me semble tout à fait correct. Mais je dois ajouter une chose, et c'est que, par contraste avec Lévinas et avec la grande partie des philosophes, de notre époque, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que c'est que la philosophie. Je n'ai pas une définition. Je ne sais pas à quel moment ça cesse d'être de la philosophie et d'être quelque chose d'autre. Hein. Et je ne considère pas que la philosophie peut être quelque chose de pur, hein, quelque chose de bien défini. La philosophie n'existe que dans la mesure où elle s'intéresse à ce que font d'autres hein, qui ne se considèrent pas des philosophes.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la philosophie est une manière de regarder ? C'est une méthode, en fait ?
Mais le problème, c'est qu'il y a plein de définitions. J'ai publié en 2016... un livre qui s'appelle « Le philosophe oui. », une histoire en 6 types.
En 6, et j'aimerais bien que d'ailleurs, que vous... ouais. C'est quoi ces 6 types ?
Et j'ai donné des exemples de personnes ou de types de personnes qui, dans l'histoire, à un moment donné, quelque part, ont été considérés des philosophes.
Alors dites-nous, parce que cet ouvrage n'est pas disponible en français, on n'y a pas accès. Alors je suis curieuse de savoir qui sont ces types de philosophes.
Bon, il y a, par exemple, il y a l'ascète, hein, le sage, le courtier, j'oublie les 3 autres déjà, mais il y a des philosophes réels qui correspondent plus ou moins bien à ces types. Mais ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut définir la philosophie de plusieurs façons, mais il y aura toujours quelqu'un qui a une autre définition, mais qui est considéré par tout le monde comme philosophe.
Alors, mais quelle est votre définition ? Comment définissez-vous votre rapport à la philosophie ?
Mais je suis celui qui regarde toutes les définitions et qui remarque qu'il y en a plusieurs, hein, qui sont parfois incompatibles les unes avec les autres.
Ça, c'est une manière de ne pas répondre.
Non, mais écoutez, Wittgenstein dit que la philosophie, c'est l'activité d'aider à la mouche dans la bouteille d'en sortir. Deleuze dit que la philosophie, c'est l'activité de créer de nouveaux concepts. Ces 2 activités n'ont presque rien en commun. Comment est-ce qu'on peut décider ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement. Et maintenant, surtout aux États-Unis, dans les années les plus récentes, quand on s'intéresse de plus en plus à la diversité dans la philosophie, dans les universités, dans un sens plus large, on commence à s'interroger sur le statut canonique de certains auteurs. Et on se demande, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ajouter d'autres à ce canon de textes, hein? Et donc, on ajoute de plus en plus, par exemple, de femmes du XVIIe siècle, des auteurs des traditions non occidentales, etc. Et moi, je suis tout à fait pour cette nouvelle ouverture, mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que le canon devient de plus en plus mou, hein, de plus en plus vague, hein, si on cherche des critères nécessaires et suffisants qui relient tous les textes qu'on veut inclure dans l'histoire de la philosophie aujourd'hui. On n'en trouve pas. Il n'y a pas de critères nécessaires et suffisants. Et pour moi, c'est tout à fait OK, hein, mais néanmoins, je ne peux ne pas remarquer que ça problématise notre idée de la philosophie comme discipline bien définie.
Sans pouvoir proposer une définition claire et nette de la philosophie, vous écrivez beaucoup. Justin Smith, vous avez, j'ai la liste sous les yeux, vous avez beaucoup co-dirigé d'ouvrages, que ce soit sur Leibniz, sur la philosophie naturelle, sur l'histoire, etc. Et vous écrivez aussi dans les revues, dans les ouvrages. Est-ce que pour vous, c'est une activité qui est la même que celle d'enseigner, d'écrire des articles, ou c'est une manière de s'ancrer dans le contemporain, ou comment est-ce que vous le percevez?
Mais écrire, c'est un peu comme intervenir à la radio parce qu'on ne voit pas son public, hein. Donc, les deux ont plus en commun qu'avec l'activité d'enseignement où on voit les étudiants et il y a un rapport, comme Levinas dirait, qui est déterminé par le visage, hein, de l'autrui, hein, qui n'est pas là dans l'écriture. Et là, je trouve que je m'exprime le mieux,
hein. Quand vous ne voyez pas le visage.
C'est ça.
Bon, hein. Et là, mais vous faites attraction du mien.
Et c'est dans l'écriture que je m'exprime mieux. Ça a toujours été comme ça. J'aime l'idée de parler à un public futur, hein, où personne ne sait encore qui sera le lecteur. Je trouve que c'est, ça me convient très bien. Je pense qu'on a donner trop de valeur dans notre réflexion sur le projet philosophique au dialogue. Hein. C'est vrai que Socrate aimait bavarder avec ses copains au marché et que on a toujours eu des disputations comme rituel central dans la philosophie, mais il y a aussi le côté plus privé, plus ascète, si vous voulez, qui est celui qui est assis devant son bureau dans la nuit, qui réfléchit, qui pense, qui médite, hein, et qui peut-être écrit ce qu'il pense.
Hein, et ça prend du temps, c'est ça que vous dites.
Et ça prend du temps, et c'est une vocation très isolée aussi. Hein, et ça doit être équilibré aussi avec d'autres activités, mais il ne faut pas oublier que ça, c'est l'un des composants principaux de l'activité du philosophe.
Vous écrivez la nuit ?
Parfois, hein, j'écris à toutes les heures.
Il n'y a pas des moments plus propices que d'autres pour écrire ?
Mais c'est difficile, hein, parce que la vie est compliquée, on a beaucoup de choses à faire, surtout quand on enseigne. Mais normalement, en fait, c'est le matin. Mais ça dépend, hein. J'ai pas de rituel particulier, hein. Ça arrive.
Mais c'est un plaisir pour vous d'écrire ?
C'est un plaisir d'avoir écrit, hein. C'est un plaisir d'avoir terminé un paragraphe dont on peut être fier. Mais parfois, c'est dur aussi d'expulser ce paragraphe, hein. Ça prend un effort.
Et quand vous écrivez un livre de philosophie ou quand vous écrivez un texte dans un journal, est-ce que c'est le même geste?
Non, parce qu'en fait, l'une des raisons pourquoi j'aime écrire dans les revues, hein, dans la presse populaire, bon, il y a plusieurs raisons. Je pense que les philosophes doivent faire un effort pour parler avec un grand public, sans doute, mais aussi dans les revues scientifiques, hein, on doit toujours donner un argument, hein, et chaque phrase doit contribué à la construction de l'argument. Hein. Et donc, tout comme je veux rétablir la légitimité de la philosophie en vrai, de la philosophie comme méditation, je trouve que c'est important aussi de d'insister sur l'importance de la philosophie exprimée sous la forme de l'essai. Hein. Et un essai n'est pas un argument parce que celui qui écrit l'essai ne sait pas forcément où ça va mener. Hein. Et souvent, moi, je ne sais pas où ça mène. Hein. Et j'aime ou j'insiste sur mon droit d'écrire sans donner un argument.
Mais est-ce que vous arrivez à identifier le moment où vous avez une idée, vous vous dites « ça, je veux l'écrire, je vais en faire un livre ».
C'est, il y a souvent une longue période de gestation, ça prend du temps, ça prend parfois des années avant de me dire c'est maintenant que je vais commencer à écrire ce livre. Hein. Et j'ai, à chaque moment, j'ai, je sais pas, 3, 4, 5 idées qui pourraient un jour devenir des livres, mais je sais pas lesquelles.
Et là, vous êtes en train d'écrire en ce moment?
Je viens de terminer un livre qui est en train de paraître, hein, qui s'appelle Irrationality, hein, donc la déraison, hein, l'irrationalité.
Oui.
Une histoire de la face obscure de la raison.
The history of the dark side of reason.
C'est ça,
ça
oui.
From Princeton University.
C'est ça, c'est ça. Et ça a été un grand effort des derniers 2 ans. Et maintenant, je continue à écrire ça et là.
Et vous écrivez des romans aussi?
Oui, je suis en train d'écrire un roman. Oui, 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 oui. Mais on verra où ça mène.
Bon, vous reviendrez nous en parler. Est-ce que vous considérez que votre rôle de philosophe, d'enseignant de philosophie et d'essayiste en philosophie est une manière de vous engager dans la cité? Je vous pose la question parce qu'à la suite des attentats du Bataclan en 2015 à Paris, vous avez fait paraître dans Slate un article où vous interrogez sur mais pourquoi est-ce que finalement c'est ce groupe-là, Eagles of Death Metal, qui avait été pris pour cible par les djihadistes. Et c'était voilà, une manière quand même de réfléchir à chaud sur un événement qui venait de se passer.
Oui, oui, oui.
C'était une manière de vous engager.
Oui, écoutez, l'une des questions que je discute dans mon livre le plus récent sur l'irrationalité, c'est l'impuissance que on ressent aujourd'hui face aux crises, face aux défis politiques. Et je suis convaincu maintenant que ça ne peut pas aider de, par exemple, de partager son opinion dans les réseaux sociaux. Et donc, vous allez dire, oui, mais partager son opinion dans les réseaux, c'est une chose. Écrire un livre ou une rubrique dans un journal, c'est autre chose. Et là, je ne suis plus sûr. Hein,
ah oui.
Parce que, de mon expérience et de plus en plus, les livres n'existent plus, sauf dans la mesure où on en parle dans les réseaux sociaux.
Hein. Vous voulez dire qu'on ne lit plus?
On ne lit plus le département de publicité hein, dans les grandes maisons de presse. Ils sont tous là préoccupés par la question de l'impact hein, qu'on peut mesurer d'un livre dans les réseaux sociaux ou sur Internet en général. Hein. Et donc, on peut se présenter comme puriste, hein, qui n'a pas besoin de l'Internet, qui ne sait rien de Twitter et tout ça. Mais c'est un peu naïf, hein, parce que je sais que si on ne parle pas de mon livre sur Twitter, mon livre ne sera pas vendu et personne ne va le lire. Et donc, je suis pas convaincu de la différence en principe entre l'impuissance de celui qui partage son opinion sur Twitter et celui qui écrit un livre. Hein. Je suis très sceptique hein, en tout ce qui concerne, disons, l'implication des intellectuels par écrit. Hein.
Et pourtant, vous l'avez fait. Vous écrivez
oui,
cet article.
Oui, mais je ne sais pas ce que ça change. Et donc, je suis entre les deux camps. Hein, et, ben, parfois, je ne peux plus résister, je ne peux plus me taire. Et j'essaye d'intervenir, mais je n'ai jamais été satisfait par ce qui en résulte. Et souvent, je me dis, non, ce serait mieux de retourner dans mon trou où je lis Pline l'Ancien et Aristote, et j'écris des essais là-dessus qui ne vont certainement changer le monde. Sauf qu'il y a une troisième possibilité, et c'est que c'est en insistant sur la beauté irréductible de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, ouais. Je le prends juste comme exemple, d'insister que même dans ce monde horrible, Pline l'Ancien peut survivre, hein, peut continuer à avoir une place, hein, que ça pourrait peut-être aider à améliorer les choses, hein. Mais là aussi je suis pas convaincu, hein. C'est juste peut-être une sorte de sortie de ce dilemme, hein, que j'ai posé.
Mais quand vous dites quand vous prenez la parole publiquement ou quand vous écrivez un article pour réagir à l'actualité, que vous n'êtes pas satisfait, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous attendez? Il n'y a pas assez de retours, vous n'êtes pas satisfait de vous. Qu'est-ce que vous espérez changer qui n'arrive pas?
Oh, peut-être que c'est avant, on écrivait une rubrique dans un journal et on n'était pas obligé de lire les milliers de commentaires bêtes et insultants.
Oui, mais vous le disiez, vous n'aimez pas avoir des interlocuteurs, en fait. Donc ouais, vous n'avez pas envie d'avoir les réactions.
Mais de nos jours, quand on publie dans le New York Times, c'est tellement déprimant de voir ensuite ce que les lecteurs ont à dire en réponse.
Mais si vous arrêtez, si vous déposez les armes, alors ce sont eux qui gagnent. Si vous n'aimez pas ces commentaires, il faut contre-argumenter.
Mais là, et c'est pour ça que je pense qu'il faut penser sérieusement à l'effet que l'Internet a dans le monde actuel. Je pense que c'est pas eux, les commentateurs bêtes qui ne savent rien, mais qui veulent lancer des jurons. Je pense que le vrai problème, c'est les algorithmes. Hein, et la façon dont l'intellect artificiel nous pousse vers des tendances politiques ou vers des idées dangereuses qu'on n'aurait pas pris au sérieux avant. Hein. Et depuis 3, 4, 5 ans, on voit une radicalisation, une sorte de dureté qui est de plus en plus évidente dans la façon dont les gens communiquent les uns avec les autres par ce moyen d'Internet. Hein. Et je pense que c'est pas eux qui sont à blâmer, hein. c'est pas dans leur nature, hein. C'est le fait que les algorithmes poussent les gens à s'identifier avec d'autres de la même tendance et le plus souvent d'autres qui sont plus radicaux que eux. Et c'est dangereux.
Mais ça ne veut pas dire que les gens sont plus dangereux qu'avant, mais qu'on les entend plus en tout cas.
Non. Je pense que c'est une machine à radicaliser les gens.
On va écouter un dernier son ensemble, peut-être pour revenir sur les liens entre science et philosophie. Enfin, c'est quelqu'un qui va vous poser une question. Il s'agit de Bruno David, le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.
La biodiversité a toujours survécu. La preuve en est que nous sommes là. Serons-nous là après la prochaine crise ?
Allons-nous survivre à cette crise? Alors quand c'est Bruno David, donc le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui pose cette question, elle a un autre sens. C'est une question qu'on se pose souvent, de savoir si on peut survivre à la crise. Je précise que c'est lui qui était à l'origine du manifeste du Muséum,
qui était publié
à l'automne 2017 et auquel vous aviez contribué, Justin Smith, il s'agissait de dire que la science se trouve pas simplement dans les laboratoires aujourd'hui, mais que les collections, y compris dans les musées, délivrent un savoir qui serait encore actuel.
Oui. Et en fait, un très bon exemple, c'est le cérumen des baleines.
Nous dire, voilà.
Qu'on trouve trouve surtout dans les collections des musées naturels. Et pendant très longtemps, on considérait, on était prête à le jeter. Tout d'un coup, on constate que en fait, c'est d'une grande valeur. Mais là, oui, hein, tout à fait. Je pense que ce devoir, hein, c'est pas seulement un rôle que les musées naturels jouent. C'est un vrai devoir, une responsabilité à conserver des choses qu'on risque d'oublier. Hein. Et c'est exactement le même pour les fossiles ou pour la cire des oreilles des baleines que pour les textes anciens hein, que les paléographes lisent. Hein. Il faut conserver, il faut garder les choses que le grand public a tendance naturellement de négliger.
Hein. Mais c'est quoi de quelle crise parle-t-il ici?
C'est difficile à dire parce que
le manifeste du muséum, c'était parce que les musées eux-mêmes qui sont en état de crise.
De plus en plus, oui, c'est évident que de plus en plus ils n'ont pas assez de fonds, assez de subventions pour continuer à exister. Hein. On considère que la vraie science, c'est la découverte dans les laboratoires. Et non pas le fait de garder des fossiles, etc. Et donc l'idée derrière le manifeste du musée, c'était de plaidoyer pour l'importance des collections de ce genre. L'exemple le plus connu probablement, c'est quand on découvre que un ossement, disons d'un mammouth, a des traces d'ADN qu'on peut analyser. On peut faire le génome des espèces extinctes qui parfois peut mener aussi à une meilleure compréhension de notre histoire génétique à nous, qui finalement peut mener à la guérison des maladies, etc. Donc, il faut toujours insister sur le côté pratique des choses, hein, parce que si on insiste que les fossiles les peaux des mammouths, etc., sont beaux, ça va pas nous gagner de la subvention de l'État.
Décloisonner la philosophie et sortir la science des musées, c'est sans doute votre objectif, Justin Smith. On va se quitter avec une dernière chanson que vous aviez proposée aussi, Devil Got My Woman. Qu'est-ce que c'est cette chanson?
Ah oui, c'est une chanson de Skip James. De nouveau, je pensais dans tous les trois cas, soit au diable, soit au Jésus-Christ, je sais pas pourquoi, mais c'est une chanson de la Renaissance des blues aux années 60, quand on a redécouvert des vieillards qui étaient connus dans les années 20-30, et à mon avis, c'était un moment tellement important pour la continuité de la culture populaire américaine, hein, parce que les chansons que eux ils ont appris aux années 20-30, ensuite redécouvertes, eux ils les ont appris à la fin du 19e siècle. Donc c'est une sorte de lien que nous avons avec l'époque qui précède les enregistrements, hein. Voilà.
Là, c'est dans la version que vous souhaitiez en concert, la version blues au Newport Folk Festival de 1966. Une toute dernière question, Justin Smith, oui. Avant de vous laisser partir. Je lis que l'astéroïde 13585 s'appelle Justin Smith.
Ah oui, ah oui.
C'est vous ?
Ah oui, c'est moi, c'est moi.
Mais comment ça, on a baptisé l'astéroïde après vous ?
Oui, je suis immortalisé hein, quelque part entre Mars et Jupiter grâce à un astronome belge qui m'avait lu et qui a aussi découvert cet
Quelle
astéroïde.
Quelle postérité, on peut rien vous jeter de plus grand. Grand merci, hein, merci infiniment Justin Smith.
Merci.
D'être venu nous parler ce matin. Bon, on a hâte de lire vos livres en français bientôt. J'espère qu'ils seront disponibles.
Then I went to that high water, way away from the buggy behind. You know I'm so sorry. You know I'm so sorry. Because woman, you know you don't treat me, honey, like you used to do. You know my baby don't drink whiskey. My baby, she don't drink no whiskey. And I know she ain't crazy about wine. But it wasn't nothing but the devil. He done changed my baby's mind.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, vous nous parlez de la sagesse du 7e art.
Oui, c'est le titre d'un essai de Jean-Philippe Coste qui vient de paraître aux éditions Libère. Comme on le comprend dès ce titre, l'idée est bien de saisir la sagesse qui se déploie au sein du cinématographe. La démarche s'inscrit dans un mouvement actuel depuis Deleuze de philosopher à partir des films avec des cinéastes en compagnie d'acteurs, d'intrigues et de mise en scène. Toutefois, les approches peuvent différer dans ce même mouvement. Certains trouvent dans les films des incarnations parfaites de théories déjà existantes, quand d'autres s'emploient à dégager une philosophie propre à un genre cinématographique ou à une filmographie particulière. Et puis, il y a l'approche comme celle de Jean-Philippe Coste avec ce livre, se saisir des grandes questions philosophiques, comme par exemple, Dieu existe-t-il ? La vie a-t-elle un sens ? Quelle est l'origine du mal ? Ou encore, que signifie être libre ? Et y trouver une réponse dans les films. Vous voyez la différence ? Ni illustration, ni mise en question ou problématisation à travers la mise en scène et le jeu, mais des réponses à des problèmes philosophiques. Comment les cinéastes répondent-ils à nos questions les plus philosophiques ? Quelle sagesse proposent-ils à travers leurs films ? Réponse avec quelques cas pratiques décortiqués par Jean-Philippe Coste dans son livre.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Ah bah Adèle, vous chantez la chanson,
bah oui.
Vous la reconnaissez.
C'est les Monty Python.
Always
look on the bright side of life.
Dans quel film ?
Le Sacré Graal ?
Non. La vie de Brian.
La vie de Brian, évidemment. Bah alors, Justin Smith, vous pouvez m'aider. Hein,
oui, on va faire un petit jeu parce qu'on va entendre d'autres extraits. Alors, à votre avis, dans ce film, quelle question est posée et quelle réponse on peut y trouver ?
Justin Smith, vous l'avez en
tête, question philosophique peut s'y déployer et comment y répondre ?
Est-ce que la vie a un sens ? Bah, la réponse est non.
En fait, non, il y a cet autre film de Monty Python, Le sens de la vie, The Meaning of Life, que je connais mieux. Mais
oui, c'est ça.
La vie de Brian, je ne sais pas.
Vous nous répondez.
Alors, la question, c'est tout simplement, selon Jean-Philippe Coste, en qui ou en quoi croit-on quand on croit en Dieu ? Question que l'on peut décliner en d'autres interrogations. Qui est Dieu ? Quelles sont ses qualités ? Qu'est-ce qu'être divin ? Et la réponse des Monty Python dans ce film est sans appel, et évidemment drôle et absurde. Dieu est humain. Trop humain, beaucoup trop humain même, entendez par là, insensé, risible, ridicule, dérisoire. D'une part parce que les humains ne peuvent croire qu'en une créature qu'ils ont imaginée à leur propre image, et d'autre part parce que les humains sont eux-mêmes ridicules, insensés, voués à l'absurdité de la vie. Le syllogisme est donc implacable, et par là même la réponse l'est aussi. Qui est Dieu ? Eh bien il n'est rien d'autre qu'un homme, et croire en lui ne relève que d'une envie très pressante.
Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale.
Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley.
Vous savez, l'histoire, elle va changer.
Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça.
Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean ?
Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Retour vers le futur.
Bon, la bande-annonce version française est assez claire, vous l'avez reconnu. Cette fois-ci, il s'agit du réalisateur Robert Zemeckis et de son film Retour vers le futur. Mais alors là, quelle question et quelle réponse, selon vous, peut-on trouver dans ce film ?
Est-ce qu'on peut voyager dans le temps ? La réponse est oui.
Alors, c'est pas mal, mais ça n'est pas celle de Jean-Philippe Coste. Pour Jean-Philippe Coste, la question qui se pose, c'est dans quel monde vivons-nous ? Et c'est la question donc qui se pose, et il y répond avec une réponse proche de celle de Leibniz et Voltaire. Nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Regardez son héros, Marty McFly. Celui-ci ne cherche pas autre chose qu'à recréer dans le passé le monde dans lequel il grandit. Il ne cherche pas à le changer, mais à le stabiliser, à le retrouver tel quel. Jean-Philippe Coste voit ainsi dans toute la filmographie de Zemeckis, qu'il s'agisse de Retour vers le futur, de Seul au monde ou de Forrest Gump, une ode à l'optimisme. Voir le monde dans lequel on vit avec optimisme, moins par naïveté, mais parce que quand on le quitte, on se rend compte qu'il est le moins pire. C'est la sagesse de Zemeckis.
Thelma and Louise are going fishing.
How come Dara let you go?
Because I didn't ask him.
He's going to kill you!
I left him a note.
Thelma and Louise are going to catch hell.
I'll have a wild turkey straight up and a Coke back, please.
Thelma!
Oh, what? Tell me something. Is this my vacation or isn't it?
Troisième exemple, alors là aussi la bande-annonce, même en anglais, est assez explicite. Il s'agit de Thelma et Louise de Ridley Scott. Quelle question, encore une fois, s'y pose et quelle réponse, Adèle, peut-être vous allez trouver ?
La question, c'est l'amitié est-elle plus forte que tout ? La réponse, oui, mais vous prenez le risque de mourir.
Non, c'est quelque chose à voir avec la loi. C'est la question, pourquoi respecter la loi ? Et là, la réponse de Ridley Scott, parce qu'elle est sacrée, parce que la loi trace la ligne infranchissable entre humanité et inhumanité, entre humains et animaux. Mais alors, quelle loi ? Les normes arbitraires et injustes des hommes ou les lois fondamentales que l'on établit pour soi ? Et qu'il s'agisse des Monty Python, de Zemeckis, de Scott ou encore de Chaplin, Spielberg ou encore Kazan, chaque cinéaste répond par l'image. Mais ce qui est montré selon Jean-Philippe Coste ne laisse pas forcément transparaître la réponse. Scott sacralise ainsi la loi tout en montrant de l'illégalité, et les Monty Python désacralise quant à eux la religion tout en la montrant. À vous de voir maintenant ce qui apparaît sur vos écrans.
Bon, il faut que je lise le livre pour mieux répondre à vos questions, Géraldine.
Mais comme quoi, les réponses et les questions sont multiples.
Il y en a beaucoup, n'est-ce pas ? En tout cas, c'est pas celle de... Alors, comment s'appelle l'auteur de ce livre ?
Le titre, c'est La sagesse du 7e art, répondre aux grandes questions avec le cinéma anglo-saxon, et c'est paru aux éditions Liber.
C'est noté, merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Mathieu Tarpin, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Nasser Moussaoui qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions autour de l'oubli. Nietzsche et la nécessité d'oublier, l'invention de la mémoire. Paul Ricoeur, pardonner, est-ce oublier ? Ou bien le cinéma d'Alain Resnais, ce sera au programme dès lundi prochain. Mais je vous donne également rendez-vous mardi 19 février à 16h pour l'enregistrement d'un nouveau forum organisé par France Culture dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Le thème sera le nouvel âge politique. Quant à nous, nous vous proposerons un débat autour de la philosophie des réseaux sociaux en compagnie de Valérie Jeanne Perrier, Pierre Musso et Benoît Thiolin. Ce sera mardi donc à 16h. Les réservations se font en ligne sur le site de France Culture et de Radio France. D'ici là, vous pouvez également réécouter cette émission sur le site des Chemins de la Philosophie ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. À lundi donc, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.